Deuxième jour. Mathilde s'était éveillée à l'aube. On l'avait descendue au cours de la nuit dans une chambre où l'ennui perçait déjà. Depuis 15 mois, l'hyperactivité avait été son seul remède pour se guérir des scories d'une autre vie où le cocktail malin de désespoir et de drogue avait presque eu raison d'elle. Le néon qui grésillait au-dessus de sa tête lui rappelait les longues heures passées à lutter contre le manque, qui en son temps corrompait ses entrailles en indicibles algies. Mémoire de jours dantesques où Zofia, qu'elle appelait son ange gardien, devait retenir ses mains. Pour survivre, elle mutilait son corps, le griffait à s'en arracher la peau pour inventer de nouvelles blessures qui diluraient les châtiments insoutenables des plaisirs révolus. Il lui semblait parfois ressentir encore à l'arrière de son crâne le lancinement des hématomes, conséquence des multiples coups qu'elle s'assénait au fond des nuits abandonnées à des souffrances ultimes. Elle regarda le creux de son coude. Les stigmates des piqûres s'en étaient effacés semaine après semaine, signe de rédemption. Seul, un ultime petit point violacé subsistait encore au trait d'une veine, comme un rappel de là où la mort lente était entrée. Zofia poussa la porte de sa chambre. « Juste à temps, » dit-elle, en déposant un bouquet de pivoine sur la table de nuit. « Pourquoi juste à temps ?» demanda Mathilde. « J'ai vu ta tête en entrant. La météo de ton moral avait l'air de virer aux variables tendance orage. Je vais aller demander un vase aux infirmières. « Reste auprès de moi, » dit Mathilde d'une voix effacée. « Les pivoines sont presque aussi impatientes que toi. Elles ont besoin de beaucoup d'eau. Ne bouge pas, je reviens. » Seule dans sa chambre, Mathilde contemplait les fleurs. De son bras valide, elle caressa les corolles soyeuses. Les pétales de pivoine avaient la texture d'un pelage de chat. Mathilde adorait les félins. Zofia interrompit sa rêverie en revenant, les bras chargés d'un seau. « C'est tout ce qu'elles avaient. Ce n'est pas très grave. Ce ne sont pas des fleurs snobs. Ce sont mes préférées. Je sais. Comment tu as fait pour en trouver en cette saison ?»«
Secret. »
Zofia contempla la jambe plâtrée de son amie, puis la telle qui immobilisait son bras. Mathilde surprit son regard.
« Tu n'y es pas allée de main morte avec ton briquet ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas ? Je ne me souviens de presque rien. Nous parlions, tu t'es levée, moi pas, et puis ensuite un immense trou noir. »
« Non, une fuite de gaz dans le faux plafond de l'office. Combien de temps devras-tu rester ici ?» Les médecins auraient accepté de laisser Mathilde sortir dès le lendemain, mais elle n'avait pas les moyens de faire appel à une assistance à domicile et son état la privait de toute autonomie. Lorsque Zofia s'apprêta à repartir, Mathilde fondit en larmes.
« Ne blesse pas ici. Cette odeur de désinfectant me rend folle. J'ai assez payé, je te le jure. Je n'y arriverai plus. J'ai tellement la trouille de replonger que je fais semblant d'avaler les calmants qu'il me donne. Je sais que je suis un poids pour toi, mais sors-moi de là, Zofia, maintenant !»
Zofia retourna au chevet de son amie et lui caressa le front pour chasser les spasmes de chagrin qui agitaient son corps. Elle lui promit de faire de son mieux pour trouver une solution, au plus vite. Elle repasserait la voir en fin de soirée. En sortant de l'hôpital, Zofia fila vers les docks. Sa journée était chargée. Le temps passait vite. Elle avait une mission à accomplir et quelques protégés qu'il n'était pas question d'abandonner. Elle partit rendre visite à son vieil ami errant. Jules avait quitté le monde sans avoir jamais identifié le chemin qu'il avait conduit sous l'arche numéro 7, où il avait élu domicile non fixe. Juste une série de terribles mauvais tours que la vie lui avait joués. Une compression de personnel avait marqué le terme de sa carrière. Une simple lettre était venue lui annoncer qu'il ne faisait plus partie de la grande compagnie qui avait été toute son existence. À 58 ans, on est encore très jeune. Et même si les sociétés de cosmétiques juraient qu'à l'approche de la soixantaine, la vie était encore devant soi, pour peu que l'on prenne soin de son capital esthétique, leur propre département de ressources humaines n'en était que peu convaincu lorsqu'ils réévaluaient le plan de carrière de leur cadre. C'est ainsi que Jules Minsky s'était retrouvé au chômage. Un agent de sécurité avait confisqué son badge à l'entrée de l'immeuble où il avait passé plus de temps que dans sa propre maison. Sans lui adresser une seule parole, l'homme en uniforme l'avait accompagné jusqu'à son bureau. Sous les regards silencieux de ses collègues, il avait dû ranger ses affaires. Par un jour de pluie sinistre, Jules s'en était allé, un petit carton sous le bras pour unique bagage, après 32 années de fidèle servitude. La vie de Jules Minsky, statisticien et féru de mathématiques appliquées, se résumait pourtant, en une arithmétique très imparfaite. Addition de week-ends passés sur des dossiers au détriment de sa propre vie, division subie au profit du pouvoir de ceux qui l'employaient, on était fiers de travailler pour eux, on formait une grande famille où chacun avait son rôle à jouer à condition de tenir sa place. Multiplication d'humiliations et d'idées ignorées par quelques autorités illégitimes au pouvoir inégalement acquis, soustraction, enfin, du droit de finir sa carrière dans la dignité. Semblable à la quadrature du cercle, l'existence de Jules se réduisait à une équation d'insolubles iniquités. Au cours de son enfance, Jules aimait à traîner près de la décharge de ferraille où une presse immense compressait les carcasses des vieilles voitures. Pour chasser les solitudes qui enterrent ses nuits, il avait souvent imaginé la vie du jeune cadre nanti qui avait ruiné la sienne en l'évaluant bon pour la casse. Ses cartes de crédit s'étaient effacées à l'automne. Son compte en banque n'avait pas survécu à l'hiver. Il avait quitté sa maison au printemps. L'été suivant, il avait sacrifié un immense amour en emportant sa fierté dans un dernier voyage. Sans même s'en rendre compte, le dénommé Jules Minsky, 58 ans, était revenu élire domicile non fixe sous l'arche numéro 7 du quai 80 du port marchand de San Francisco. Il pourrait bientôt y fêter 10 années de belles étoiles. Il se plaisait à raconter à qui pouvait l'entendre que, le jour de son grand départ, il ne s'était vraiment rendu compte de rien. Zofia avisa la cicatrice qui suintait sous l'accroc du pantalon en tweed au motif Prince de Galles.
« Jules, vous devez aller faire soigner cette jambe. »«
Oh, ne recommence pas, s'il te plaît. Elle va très bien, ma jambe. »«
Si on ne nettoie pas cette plaie, elle sera gangrénée dans moins d'une semaine et vous le savez très bien. »
« J'ai déjà vécu la pire des gangrènes, ma jolie. Alors, une de plus, une de moins. Et puis, depuis le temps que je demande à Dieu de venir me chercher, il faut bien que je le laisse faire. Si je me soigne à chaque fois que j'ai quelque chose de travers, à quoi ça sert d'implorer de partir de cette foutue terre? Alors tu vois, ce bobo, c'est mon ticket gagnant pour l'ailleurs. »
« Qui vous met des idées aussi stupides dans la tête ?»«
Personne. Mais il y a un jeune gars qui traîne par ici et qui est tout à fait d'accord avec moi. J'aime bien discuter avec lui. Quand je le vois, c'est mon reflet dans un miroir passé. Il s'habille avec le même genre de costume que ceux que je portais avant que mon tailleur n'ait le vertige en découvrant les abîmes de mes poches. Je lui prêche la bonne parole, lui, la mauvaise. On fait un peu de troc, tu vois, et moi je me distrais.
Ni mur, ni toit. Personne à haïr. Pas plus de nourriture devant la porte que de barreaux qu'on rêverait de scier. La condition de Jules Minsky avait été pire que celle d'un prisonnier. Rêver pouvait devenir un luxe quand on luttait pour sa survie. Le jour, il fallait chercher de la nourriture dans des décharges. L'hiver, marcher sans cesse pour lutter contre l'alliance mortelle du sommeil et du froid. « Jules, je vous conduis au dispensaire. »«
Je croyais que tu travaillais à la sécurité du port, pas à l'armée du salut. »
Zofia tira de toutes ses forces sur le bras du clochard pour l'aider à se relever. Il ne lui facilita pas la tâche, mais finit bon gré mal gré par l'accompagner jusqu'à sa voiture. Elle lui ouvrit la portière. Jules passa sa main dans sa barbe, hésitant. Zofia le regarda, silencieuse. Les rides magnifiques autour de ses prunelles azur composaient les fortins d'une âme riche d'émotions. Autour de sa bouche épaisse et souriante se dessinaient d'autres calligraphies, celles d'une existence où la pauvreté n'était que celle de l'apparence.
« Ça ne va pas sentir très bon dans ton carrosse. Avec cette foutue guibole, je n'ai pas pu aller jusqu'aux douches ces derniers jours. »«
Jules, si l'on dit que l'argent n'a pas d'odeur, pourquoi un peu de misère en aurait-elle ? Arrêtez de discuter et montez. » Après avoir confié son passager aux soins du dispensaire, elle redescendit vers les docks. En chemin, elle fit un crochet pour rendre visite à Miss Sheridan. Elle avait un précieux service à lui demander. Elle la trouva sur le pas de sa porte. Rennes avait quelques courses à faire et, dans cette ville réputée pour ses rues pentues, où chaque pas est un défi pour une personne âgée, rencontrer Zofia à cette heure inhabituelle relevait du miracle. Zofia la pria de s'installer dans la voiture et monta en courant à son appartement. Elle entra chez elle, jeta un coup d'œil à son répondeur téléphonique qui n'avait enregistré aucun message et redescendit aussitôt. En chemin, elle se confia à Rennes, qui accepta de recevoir Mathilde, jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Il faudrait trouver un moyen de la hisser jusqu'à l'étage, et quelques bonnes paires de bras pour descendre le lit métallique remisé au grenier. Confortablement installé dans la cafétéria du 666 Market Street, Luca griffonnait quelques calculs à même la table en formica, prenant possession de son tout nouvel emploi au sein du plus grand groupe immobilier de Californie. Il trempait son 7e croissant dans une tasse de café crème, penché sur l'ouvrage passionnant qui racontait comment s'était développée la Silicon Valley. Une vaste bande de terre, devenue en 30 ans la plus stratégique zone de haute technologie, baptisée le poumon de l'informatique du monde. Pour ce spécialiste du changement d'identité, se faire embaucher avait été d'une simplicité déconcertante. Il prenait déjà un plaisir fou à la préparation de son plan machiavélique. La veille, dans l'avion de New York, la lecture d'un article du San Francisco Chronicle sur le groupe immobilier A&H avait illuminé l'œil de Luca. La physionomie rondouillarde de son vice-président s'offrait sans retenue à l'objectif du photographe. Ed Hurt, le H de A&H, excellait dans l'art de se pavaner d'interviews en conférences de presse, vantant sans relâche les incommensurables contributions de son groupe à l'essor économique de la région. L'homme, qui ambitionnait depuis 20 ans une carrière de député, ne ratait jamais une cérémonie officielle. Il s'apprêtait à inaugurer en grand tralala dominical l'ouverture officielle de la pêche au crabe. C'est à cette occasion que Luca avait croisé la route d'Ed Hurt. L'impressionnant carnet d'adresses influente dont Luca avait habilement nourri la conversation lui avait valu le poste de conseiller à la vice-présidence, aussitôt créé pour lui. Les rouages de l'opportunisme n'avaient aucun secret pour Ed Hurt, et l'accord fut scellé avant que le numéro 2 du groupe n'eût achevé d'engloutir une pince de crabe, généreusement trempée dans une mayonnaise au safran, qui tacha tout aussi généreusement le plastron de son smoking. Il était 11h du matin, et dans une heure, Ed présenterait Luca à son associé, Antonio Hendrick, le président du groupe. Le A de A&H dirigeait d'une main de fer dans un gant de velours le vaste réseau commercial qu'il avait su mailler au fil des années. Un sens inné de l'immobilier, une assiduité inégalable au travail, avait permis à Antonio Hendrick de développer un immense empire qui employait plus de 300 agents et presque autant de juristes, comptables et assistantes. Luca hésita avant de renoncer à une 8e viennoiserie. Il claqua du pouce et de l'index pour commander un cappuccino. Mâchouillant son feutre noir, il compulsa ses feuillets et continua de réfléchir. Les statistiques qu'il avait empruntées au département informatique de A&H étaient éloquentes. S'accordant finalement un petit pain au chocolat, il conclut qu'il était impossible de louer, vendre ou acheter le moindre immeuble ou parcelle de terrain dans toute la vallée sans traiter avec le groupe qui l'employait depuis la veille au soir. La plaquette publicitaire et son ineffable slogan « L'immobilier intelligent » lui permirent d'affiner ses plans. A&H était une entité à deux têtes. Son talon d'Achille se situait à la jonction des deux coups de l'hydre. Il suffirait que les deux cerveaux de l'organisation aspirent au même air pour en venir à s'étouffer mutuellement. Kendrick et Hurt se disputent la barre du navire et le groupe ne tarderait pas à dériver. Le naufrage brutal de l'empire A&H attiserait vite l'appétit des grands propriétaires, entraînant la déstabilisation du marché immobilier dans une vallée où les loyers étaient des piliers fondamentaux de la vie économique. Les réactions des places financières ne se feraient pas attendre et les entreprises de la région seraient vite asphyxiées. Luca compulsa quelques données pour établir ses hypothèses. La plus probable était qu'un grand nombre d'entreprises ne survivraient pas à l'augmentation de leurs loyers et à la baisse de leurs cotations. Même en étant pessimiste, les calculs de Luca laissaient prévoir qu'au moins 10 000 personnes perdraient leur emploi. Un chiffre suffisant pour faire imploser l'économie de toute la région et provoquer la plus belle embolie que l'on ait jamais imaginée, celle du poumon de l'informatique du monde. Les milieux financiers n'ayant d'égal à leur certitude passagère que leur frilosité permanente, les milliards qui se jouaient à Wall Street sur les entreprises de haute technologie se volatiliseraient en quelques semaines, infligeant un superbe infarctus au cœur du pays.
« La mondialisation a quand même du bon »,
dit Luca à la serveuse qui lui porta cette fois un chocolat chaud. « Pourquoi ? C'est avec un produit coréen que vous comptez nettoyer vos cochonneries ? » répondit-elle, dubitative, en regardant les graffitis sur la table.
« J'effacerai tout en partant », grommela-t-il,
en reprenant le cheminement de sa pensée. Puisqu'on laissait entendre que le seul froissement des ailes d'un papillon pouvait donner naissance à un cyclone, Lucas démontrerait que ce théorème pouvait s'appliquer en économie. La crise américaine ne tarderait pas à se propager en Europe et en Asie. A&H serait son papillon. Ed Hurt, son froissement d'ailes. Et les docks de la ville pourraient bien être le théâtre de sa victoire. Après avoir méthodiquement raturé le formica avec une fourchette, Lucas sortit de la cafétéria et contourna l'immeuble. Il repéra dans la rue un coupé Chrysler dont il crocheta la serrure. Au feu, il actionna la capote électrique qui se replia dans son habitacle. En descendant la rampe de parking de ses nouveaux bureaux, Lucas prit son téléphone portable. Il s'immobilisa devant le voiturier et lui fit un signe amical de la main pour qu'il patiente, le temps de terminer sa communication. D'une voix ostentatoire, il confiait à un interlocuteur imaginaire avoir surpris Ed Hurt prêcher à une ravissante journaliste que la vraie tête du groupe était lui, et son associé seulement les jambes. Lucas enchaîna d'un formidable éclat de rire, ouvrit sa portière et tendit ses clés au jeune homme, qui lui fit remarquer que le barillet était endommagé.
« Je sais, » dit Lucas, l'air contrit. « On n'est plus en sécurité nulle part. »
Le voiturier, qui n'avait pas perdu un mot de la conversation, le regarda s'éloigner en direction du hall de l'immeuble. Il alla garer la décapotable d'une main experte et reconnue. C'était à lui et à personne d'autre que l'assistante personnelle d'Antonio Hendrick confiait chaque jour le soin de garer son 4x4. La rumeur mit 2 heures à grimper jusqu'au 9e et dernier étage du 666 Market Street, le prestigieux siège social de A&H. La pause déjeuner avait freiné sa progression. À 13h17, Antonio Hendrick entrait ivre de rage dans le bureau d'Ed Hurt. À 13h29, le même Antonio ressortait du bureau de son associé en claquant la porte. Il cria sur le palier que les jambes allaient se détendre sur un terrain de golf et que les méninges n'avaient qu'à assurer à sa place le comité mensuel des directeurs commerciaux. Lucas adressa un regard complice au voiturier en reprenant son cabriolet. Il n'avait rendez-vous avec son employeur que dans 1 heure, ce qui lui laissait le temps de faire une petite course de rien du tout. Il avait une envie folle de changer de voiture, et pour garer à sa manière celle qu'il conduisait, le port n'était pas si loin que ça.